Il est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
Une nouvelle dépression concerne la Calédonie. Elle reste de faible intensité. L'ensemble du territoire est toutefois toujours placé en vigilance jaune pour vents violents et fortes pluies orages. La réaction de Nicolas Metzdorf au propos d'Emmanuel Tchibaou, qui s'en est pris violemment au projet de fédéralisme interne porté par les loyalistes. Déclaration inappropriée, estime Nicolas Metzdorf, que vous entendrez dans ce journal. Double signature de convention à la mairie du Mont-d'Or ce matin. L'une renouvelle le dispositif de participation citoyenne. L'autre officialise la coopération entre la police municipale et les gendarmes du Mont-d'Or. En métropole, le budget est adopté. Les motions de censure LFI ont été rejetées. La France insoumise s'en prend violemment aux socialistes. Donald Trump a le mérite de faire bouger les lignes. Sa déclaration pour faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient continue d'alimenter les débats. Et puis en sport du football, avec la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France, grosse surprise ce matin, Saint-Brieuc, pensionnaire de National 2, a sorti Nice, club de Ligue 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Notez que l'on parlera du réseau Taneo dans les jeudis de l'économie juste après cette édition. La délégation de services publics prend fin ce soir à minuit. Seul Car Sud a répondu à l'appel d'offres pour ce nouveau réseau de transport en commun dans le Grand Nouméa. Les bus circuleront de nouveau lundi avec un nouveau réseau de 8 lignes. Une réorganisation rendue évidemment obligatoire après les très lourds dégâts liés aux émeutes. Alors comment Taneo va-t-il se relancer? Dans quel périmètre et avec quel budget? Nous en parlerons avec Naya Wateou, la présidente du SMTU, Francisco Sionnet, délégué syndical du Soin Section Transport, Yannick Lérand, qui est la directrice de la Maison des étudiants, et Rebecca Frola Mignana, la directrice d'Envie, un organisme de service à destination des personnes handicapées. Ouvrons ce journal par ce drame hier soir à Païta. Une jeune mineure a perdu la vie fauchée par une voiture conduite par un membre de sa famille. Les faits se sont déroulés près du cimetière de la commune, Léana Colombo.
Aux alentours de 19h20, un jeune homme de 31 ans propose de raccompagner la jeune fille de 16 ans, membre de sa famille, chez elle. Mais elle décide finalement de rentrer à pied. Le suspect prend alors sa voiture et se décale sur la route à la hauteur de la victime qu'il percute. L'enquête en cours devra déterminer les raisons de son geste. Le décès de la jeune fille est constaté vers 23h après l'arrivée des secours. L'homme qui avait pris la fuite après le choc s'est rendu à la brigade de gendarmerie quelques heures plus tard, accompagné de sa famille. Il est actuellement en détention provisoire et des dépistages ont été effectués par les forces de l'ordre.
Et au chapitre justice, rappelons que le référent CCAT de Wailou a été mis en examen et placé en détention provisoire. Au terme de sa garde à vue, Jean-Pierre Baou était en effet présenté avant-hier devant un juge d'instruction pour des exactions qui avait empêché la tenue du premier tour des élections législatives dans la commune, ou encore l'attaque très violente de la gendarmerie avec un engin minier. Il est notamment poursuivi pour association de malfaiteurs, violence sur des gendarmes, vol de matériel de vote et troubles portés aux opérations de vote. Faisons maintenant le point sur la situation météo avec cette deuxième dépression tropicale faible de ces débuts d'année. TD06F continue sa progression vers le sud-est, mais Léo Fichou, elle ne devrait pas s'intensifier.
C'est une petite dépression d'après les prévisionnistes de Météo France. Nouvelle-Calédonie, TD06F a continué effectivement sa route vers le sud-est ces dernières heures. Elle se situe actuellement au large de Bouloupari, à plus de 300 km maintenant des côtes. Les détails de sa progression avec Gilles Devaux, prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Alors, par rapport aux prévisions d'hier, les nouvelles trajectoires la font ralentir sensiblement et elle devrait, demain matin au lever du jour, plutôt que de se trouver comme initialement prévu dans le sud de Nouméa à environ 40 km, elle se situerait plutôt à 140 km dans l'ouest-sud-ouest. Donc quand même un bon ralentissement qui aura bien sûr une incidence sur le déroulé du renforcement du vent et des zones impactées, bien entendu.
Une dépression tropicale faible moins active que prévu. Donc, malgré tout, quelques averses sont toujours prévues sur l'ensemble du territoire cet après-midi, la nuit prochaine et demain matin aussi. Le vent soufflera sur la Grande Terre et les Loyautés. On retrouve Gilles Devaux.
C'est moins actif que ce qui avait été annoncé. On a tout de même des précipitations un peu plus marquées sur les Loyautés, localement le sud-est et la pointe nord. Alors les pluies ne vont pas vraiment s'intensifier, ça va rester comme ça, éparse, avec de temps en temps une averse plus marquée. Sur le sud, par contre, on va rester bien épargné. Actuellement, on attend un renforcement sur la pointe nord et les Loyautés. On attend donc des vents de nord à nord-ouest de 20 à 25 nœuds sur le nord et les Loyautés. pour cet après-midi et la nuit prochaine. Par contre, demain matin, ça se renforce sur les loyautés. On atteint des valeurs autour de 25 nœuds, mais toujours bien en dessous de ce qui avait été prévu, parce que là, on prévoit des rafales de l'ordre d'une trentaine de nœuds.
Et je rappelle tout de même que l'ensemble des 33 communes du territoire sont placées en vigilance jaune, vent violent et forte pluie orage.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Au-delà de la situation météo actuelle, à quoi sont dues, selon vous, les difficultés et la désorganisation du transport aérien et maritime dans les îles? Si vous pensez que c'est dû à une mauvaise gestion, vous tapez 1. Si vous pensez que c'est une conséquence des émeutes de mai, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 25% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'UNC a raison de vouloir créer une filière Sciences Po à Nouméa. Ils sont 75% à être d'un avis contraire. Des propos déplacés, inappropriés et même culottés. C'est la réaction du député Nicolas Metzdorf quand on l'interroge sur la question posée hier par son collègue indépendantiste au ministre des Outre-mer lors de la séance des questions au gouvernement. Vous l'avez entendu dans nos précédentes éditions. Emmanuel Tchibaou a interrogé Manuel Valls sur la sortie de l'accord de Nouméa, mais curieusement, il s'est ensuite lancé dans un véritable réquisitoire contre le projet de fédéralisme interne défendu par les partisans de la Calédonie dans la France. Une déclaration qui fait réagir le député de la première circonscription.
Moi, je trouve que la question du député Tchibaou est très culottée, dans la mesure où les Calédoniens non indépendantistes ont toujours combattu l'apartheid en Nouvelle-Calédonie. Je ne crois pas que lors des émeutes du 13 mai, il y ait eu un non indépendantiste insulter une autre ethnie. Par contre, ceux qui ont été dans la rue au slogan de « Dehors les Blancs », c'est bien les troupes que M. Tchibaou représente. La deuxième chose, c'est qu'il ne fait rien pour arranger les choses, puisque, un, il vient avec une délégation qui est uniquement composée de personnes qui sont allées à Bakou, entre M. Forès, M. Ouamitan et Mme Omera Nesline, et qu'il conteste notre projet avant même les négociations, alors que lui, on ne sait toujours pas quel est le projet du FLNKS. Donc je trouve que, un, de nous mettre sur le dos une volonté d'apartheid, alors que nous n'avons jamais tenu des slogans racistes, que deux, venir à Paris accompagner des indépendantistes de Bakou, et que trois, casser notre projet sans en avoir un, c'est vraiment culotté de sa part.
Nicolas Metzdorf s'interroge par ailleurs sur l'intérêt de poser une question aussi clivante alors que s'ouvrent à Paris les discussions sur l'avenir institutionnel. Selon lui, ce ton offensif masque surtout une absence de stratégie.
J'ai trouvé que c'était très inapproprié en fait de poser une question au gouvernement avant les négociations en attaquant la position des non-indépendantistes. Si on voulait faire échouer les négociations, on ne s'y prendrait pas mieux. Nous, on est très prudents dans nos communications officielles. Ça nous est parfois reproché par nos militants parce qu'on donne très peu d'éléments, mais parce qu'on veut que la négociation puisse aboutir. Donc arriver en question au gouvernement publiquement en cassant le projet des soi-disant partenaires, je ne trouve pas que ce soit la meilleure façon qu'a le FLNKS d'arriver pour trouver un accord. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je pense qu'il n'y a pas de stratégie. On a un FLNKS qui est simplement omnibulé par la pleine souveraineté et qu'ils le disent partout et que c'est leur seule revendication et que donc on ne cherche pas derrière à trouver un compromis, on ne cherche pas derrière à essayer de rebâtir la Nouvelle-Calédonie, à trouver des solutions économiques et sociales. Donc, moi, ce qui m'inquiète plutôt de leur côté, c'est le manque de stratégie.
Dans sa réponse au député Emmanuel Tchibaou, Manuel Valls a déclaré que seul le dialogue permettra de reconstruire un projet commun et partagé. Et il a appelé à sortir des positions radicales. Un message qui, selon Nicolas Metzdorf, s'adressait surtout au FLNKS et en particulier à l'UC. Et pendant ce temps, les discussions bilatérales se poursuivent à Paris entre Manuel Valls et les délégations des groupes politiques calédoniens. Des discussions très discrètes pour lesquelles aucun agenda précis n'a été rendu public. Deux conventions signées ce matin au Mont-d'Or. Elles ont pour objectif de lutter contre l'insécurité et la délinquance dans la commune. La première concerne la coopération entre la police municipale et la gendarmerie. La seconde met en place un nouveau protocole de participation citoyenne, Nicolas Legrand.
Oui, deux conventions qui s'inscrivent évidemment dans le contexte des violences de 2024. La commune a été le théâtre de nombreuses exactions et de nombreux affrontements, notamment au niveau de la tribu de Saint-Louis. Et pour le haut-commissaire Louis Lefranc, le retour à la normale ne peut se faire qu'avec la participation des citoyens. Et il souligne d'ailleurs leur résilience qui a permis d'éviter le pire.
Les citoyens de cette commune du Mont-d'Or Sud ont été, c'est le moins qu'on puisse dire, résilients. Donc il fallait que les citoyens de cette commune acceptent cette règle du jeu implicite qui consiste à avoir une coordination très fine entre l'autorité municipale, eux-mêmes, et les forces de police municipales et les forces de sécurité de la gendarmerie nationale. Donc finalement, on ne fait que formaliser une pratique qui a donné de bons résultats, qui a porté ses fruits. On n'a pas basculé sur la commune du Mont-d'Or dans une guerre civile. Ça aurait pu, ça s'est pas fait. Donc merci à tous les citoyens du Mont-d'Or qui nous ont fait confiance et qui ont accepté avec beaucoup de résilience, beaucoup d'abnégation ce qu'on leur a imposé.
Alors la première convention pose les bases du nouveau protocole de participation citoyenne lancé en 2018. Il s'agit de citoyens référents de leur quartier qui sont formés afin d'informer les forces de l'ordre en cas d'événements suspects ou de troubles à l'ordre public. Écoutez Eddy Lecourieux, le maire de la commune.
C'est d'expliquer à l'administré qui veut s'inscrire dans ce processus, c'est lui expliquer comment ça fonctionne la gendarmerie, comment ça fonctionne la police avec des numéros utiles, intégrer la personne dans son environnement sécuritaire. Et c'est surtout que cette efficacité viendra d'une organisation de gens qui sont sur une commune qui est très, très, très étendue. Moi, j'y crois parce qu'on l'a vu très naturellement se mettre en place. Pour l'instant, on aurait encore quelques quartiers dont on n'a pas encore de référent. Mais le but, c'est bien de couvrir toute la commune pour être efficace. Tout le monde est le bienvenu et il y aura un appel à candidater très bientôt.
L'autre convention vient formaliser les pratiques de coopération entre la police municipale et la gendarmerie nationale. Écoutez le général Mathéos, commandant la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
Ce n'est pas une innovation, c'est juste la formalisation de ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr que nous travaillons ensemble, bien sûr que tous les gendarmes de la commune de Mont-d'Or sont engagés, complètement déterminés à assurer la sécurité des Mont-d'Oriens, et bien sûr qu'on y arrive bien mieux avec l'appui précieux des camarades de la police municipale qui sont également aussi engagés que nous dans cette mission sacrée qu'est la sécurité des habitants. Il y a un tas de modalités pratiques à régler sur la couverture du terrain, les horaires, les échanges de matériel aussi. Mais en tout cas, l'esprit est là depuis longtemps, cette coopération complètement transparente et saine pour produire de la sécurité.
Le général de division Mathéos, commandant la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle a obtenu sa 3e étoile depuis le 1er février dernier. Les gendarmes qui sont toujours très engagés au Mont-d'Or. 350 gendarmes sont déployés chaque jour, rien que pour sécuriser la RP1 à Saint-Louis.
Et puis en bref, notez que le conseil municipal de Dembéa se réunit ce soir à 17h30. Les élus procéderont au débat d'orientation budgétaire alors que le vote du budget est prévu le 6 mars prochain. En début de séance, Joël Malaval sera installé comme nouveau conseiller du groupe de la majorité municipale pour une ville à votre image. Il remplace Larry Martin qui a annoncé sa démission le 19 décembre dernier. 11h43, une première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Cette Saint-Valentin, offrez plus qu'un cadeau, offrez une émotion. La Cabosse d'Or vous propose des chocolats artisanaux fendants et raffinés, parfaits pour dire je t'aime. Faites fondre son cœur avec le plaisir du chocolat. Rendez-vous, 31 route du Vélodrome, téléphone 26 39 38.
Vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Bilboquet Plage au 26 46 60. Retrouvez les suggestions spéciales Saint-Valentin sur la page Facebook Le Bilboquet Plage.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le World Mosquito Programme a fait ses preuves dans les communes de l'agglomération. Depuis 2019, aucune épidémie de dengue n'a été détectée. Et nous en avons parlé ce matin avec notre invité à 7h30, Léo.
Pour rappel, d'abord, le World Mosquito Programme consiste à introduire des moustiques porteurs d'une bactérie naturelle, la Wolbachia, qui stoppe le développement de la maladie chez les moustiques. Ces derniers jours, la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie a décidé d'arrêter ces lâchers. La raison, des résultats probants. Écoutez Nadège Rossi, chef du World Mosquito Programme en Nouvelle-Calédonie.
On a des très très bons résultats. C'est vrai que la dernière épidémie date de 2019 et depuis on a très peu de cas de dengue. Donc le programme fait son effet comme attendu et nous sommes ravis. Donc voilà, c'est vraiment un effort commun qui a été mis au service de la santé en Nouvelle-Calédonie et qui porte ses fruits aujourd'hui. L'objectif de ce programme, c'était finalement de remplacer la population de moustiques qui étaient vectrices de dengue par les mêmes moustiques mais porteurs d'une bactérie qui s'appelle Wolbachia, et grâce à cette bactérie, les moustiques ne transmettent plus la dengue. Donc aujourd'hui, on espère avoir un effet non seulement sur le Grand Nouméa mais aussi sur le reste du territoire. En tout cas, aujourd'hui, on sait que les épidémies de dengue partaient essentiellement du Grand Nouméa pour être ensuite ramenées sur le reste du territoire. Donc on a bon espoir quand même que les épidémies de dengue n'aient plus lieu en Calédonie, même si on aura toujours quelques cas évidemment de gens notamment qui peuvent revenir de voyage et qui sont malades.
Une restitution des résultats doit être faite dans les prochains jours pour les porteurs du projet World Mosquito Programme. L'an dernier par exemple, 11 cas de dengue seulement ont été recensés, dont 6 personnes qui étaient de retour de voyage. Malgré l'arrêt du programme, suivi sera maintenu sur le territoire avec notamment des prélèvements de moustiques. On retrouve Nadège Rossi.
Tout à fait. Donc il y a quand même un suivi annuel qui va se faire. Donc une fois par an, les communes vont se mobiliser, ainsi que les partenaires du programme, pour pouvoir déposer des pièges donc chez les volontaires. Les pièges vont rester 2 semaines. Donc nous allons récupérer des moustiques. Et ces moustiques vont être analysés pour voir s'ils sont, oui ou non, porteurs de la bactérie Wolbachia, ce qui nous permet de déterminer le pourcentage de moustiques porteurs de la bactérie.
En toute logique, si on a une majorité de moustiques Wolbachia, il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Ils vont continuer à être de plus en plus nombreux dans
c'est
la
ça.
Population.
C'est ça. Sur des zones où le pourcentage est très fort, bien sûr le maintien se fait. On a le cas en Australie où le programme a été mis en place en 2011 et les taux sont restés très très hauts jusque-là. Donc c'est vraiment un programme durable et c'est d'ailleurs la raison qui faisait qu'elle était intéressante pour la Nouvelle-Calédonie.
Nadège Rossi rappelle que l'objectif du programme n'était pas de lutter contre la nuisance des moustiques, mais bien contre ceux porteurs de la dengue. Il est donc normal qu'avec la pluie ces derniers jours, et encore aujourd'hui et les jours à venir, vous soyez dérangés par de nombreux moustiques.
L'invité du matin a une interview à retrouver sur notre site internet rrb.nc. C'est le grand saut pour de nombreux jeunes calédoniens qui quittent le lycée pour se lancer cette année dans des études supérieures. Un gain en autonomie, certes, mais qui peut aussi parfois effrayer. La période de rentrée se poursuit sur le campus de l'UNC où la SIC organisait ce matin des ateliers pour accompagner les élèves dans leur démarche, Charlotte Coulson.
Car la société immobilière de Nouvelle-Calédonie loge de nombreux étudiants. Entre la résidence du campus, celle de Kuutio et les colocations de Magenta, en tout, 720 logements sont à disposition des jeunes calédoniens. Et pour y vivre, il y a non seulement des règles à respecter, mais aussi beaucoup de démarches administratives. Heureusement, les agents de la SIC organisent des ateliers pour préparer cette rentrée. Ce matin, c'est Georges Tarayaou, le responsable d'agence SIC des résidences étudiantes, qui était présent à la maison de l'étudiant à Nouville pour les aiguiller.
Alors c'est une journée plutôt particulière, c'est une journée d'intégration. Donc l'objectif c'est bien sûr de les accompagner pour cette rentrée 2025, pour que tous les étudiants ayant un logement sur le campus ou ailleurs puissent se sentir bien et une grande réussite on va dire pour cette nouvelle année. Alors on a toute la partie bien sûr dossier d'aide au logement à monter avec divers documents à fournir à la SIC pour qu'on puisse présenter à la commission d'aide du FSH. Et on a aussi les assurances. Bien sûr, il faut pour chacun fournir une attestation d'assurance pour leur logement. On passe bien sûr à un autre cadre de la vie, dans l'autonomie bien sûr de chacun.
Une aide bienvenue de la part des étudiants et étudiantes. C'était le cas ce matin de Wenaï Pinochet. Elle entre en première année de BTS Économie sociale et familiale.
Du coup, je serai à la résidence sur Dambéa, à Kuutio. Je viens de Futuna et c'est un peu nouveau pour moi tout ça. Bah, en soi, ça m'a un peu éclairci sur les règles. Par exemple, je savais pas qu'on avait le droit de ramener des animaux et tout, sachant que j'aime beaucoup les animaux. Je savais pas qu'il y avait des heures de visite, par exemple. Et pour les dossiers, par exemple, j'avais un peu du mal et du coup, bah, ça m'a permis de savoir pour la prochaine fois ou pour éclaircir mes camarades peut-être ou des amis pour plus tard.
Et des ateliers organisés dans le cadre de la semaine d'intégration des étudiants de première année. Donc, les activités continuent cet après-midi avec des compétitions sportives et des défis d'intégration prévus au gymnase. Une braderie solidaire sera organisée demain pour permettre aux jeunes de s'approvisionner en fournitures scolaires.
La vision autochtone de l'avenir institutionnel de Nouvelle-Calédonie au centre des réflexions du Sénat coutumier qui est installé ce matin. Un groupe de recherche civilisationnelle autochtone pluridisciplinaire. Il s'agit en fait de la mise en place de cercles de réflexion sur différentes thématiques comme le droit, la philosophie kanak, le patrimoine culturel ou encore le système de santé. Le tout supervisé par des scientifiques locaux pour répondre au mieux aux problématiques actuelles, explique Éloi Goé, le président du Sénat coutumier.
Le but de l'installation de ce groupe de chercheurs, de scientifiques, est suite à, on va dire, du combat du peuple kanak, du peuple autochtone. Donc c'est un chemin long qu'on a parcouru jusqu'ici. Donc aujourd'hui, on arrive à un moment où la nécessité de s'appuyer sur des regards et éclairages scientifiques pour continuer à porter le combat du peuple kanak. J'ai fait appel à des pointures qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et grâce à la politique sur la question de la formation, ce n'est pas encore suffisant, mais voilà, on compte quelques-uns sur lesquels s'appuyer en attendant que d'autres arrivent pour poursuivre le combat, quoi. Au niveau scientifique, au niveau intellectuel, quoi.
Et l'installation de ce groupe de recherche civilisationnelle autochtone pluridisciplinaire se poursuit toute la journée. Le 6 février 1840, le traité de Waitangi était signé entre la couronne anglaise et près de 500 chefs de tribus maoris en Nouvelle-Zélande. Le 6 février est devenu jour de fête nationale et il permet de repenser les relations entre les tribus maoris et les institutions. En Nouvelle-Calédonie, les Néo-Zélandais sont peu nombreux, mais pour autant, ce jour reste spécial pour eux. Benjamin travaille à la communauté du Pacifique. Il est sur le territoire depuis un peu moins d'un an. Et pour lui, le Waitangi Day, c'est surtout l'occasion de se retrouver en famille.
C'est le jour national pour la Nouvelle-Zélande. C'est l'anniversaire d'un traité, le traité de Waitangi. Normalement, c'est vu comme le document pour la fondation de la Nouvelle-Zélande. Évidemment, c'est l'été en Nouvelle-Zélande. C'est une période où il y a beaucoup de jours fériés, fin janvier. Et 6 février, il y a Waitangi Day. Donc la tradition néo-zélandaise, c'est faire les barbecues, aller à la plage, prendre une longue week-end, les choses comme ça. Je suis sûr qu'il va pleuvoir ici. Pour moi, non, c'est un jour typique. Je travaille, je bosse, donc pas du tout les choses spéciales pour moi.
Et les célébrations ont commencé pour célébrer ce Waitangi Day. Pendant 3 jours, les membres du gouvernement et des tribus vont se réunir pour continuer les discussions autour du traité. 11h52, une deuxième pause dans ce journal. Dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Vous cherchez votre futur chez vous? Caillard et Cadour Immobilier a ce qu'il vous faut. Ne manquez pas la journée portes ouvertes à la résidence Le Lys Rouge ce samedi 8 février de 8h à 12h30. À cette occasion, profitez d'un mois de loyer et des frais d'agence offerts. F2 simple ou en duplex et F4 de standing, venez les visiter, rêver et imaginer votre nouveau chez vous. Plus d'infos sur Facebook ou au 24 24 24.
Avec la Calédonienne des Eaux, payez vos factures en toute simplicité. Des bornes de paiement sont là pour vous, proches de chez vous. Profitez d'un service pratique et rapide. Calédonienne des Eaux, l'eau qui nous unit.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
L'actualité en métropole et les députés de la France insoumise ne feront pas tomber le gouvernement 2 fois de suite. Les 2 motions de censure qu'ils ont déposées ont été rejetées. 2 motions après le double recours à l'article 49.3 par le Premier ministre pour faire adopter le projet de budget de la France et la première partie du projet de budget de la Sécurité sociale. Cette fois-ci, les députés LFI n'ont donc pas reçu le soutien des députés socialistes ni de ceux du Rassemblement national, configuration qui avait fait chuter le gouvernement Barnier. Les 2 motions de censure rejetées, c'est le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire qui s'appliquera, a rappelé la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, en donnant le résultat du vote.
La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2025 sont considérées comme adoptées.
Le rejet de ces motions de censure envenime les rapports entre la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le Parti socialiste. Les responsables LFI n'ont pas de mots assez durs pour qualifier la position du Parti socialiste. Rupture, trahison. Le sujet a été abordé par Jean-Luc Mélenchon lui-même lors d'une réunion publique à Angers.
Moi, j'en parle avec tristesse parce que je vous dis les choses comme elles sont. La stratégie sur laquelle a été construite le mouvement insoumis, c'était « Nous allons créer une gauche de rupture parce que la gauche qui n'est pas de rupture ne sert à rien. Et que partout dans le monde où il y a une gauche pas de rupture, de centre-gauche, toujours, partout, ça se termine de la même manière des fachos au pouvoir le coup d'après. L'unité est possible que si la gauche de rupture mène le convoi. Parce que sinon, que se passe-t-il? Les gens n'y croient pas. Et vous croyez qu'après un épisode pareil, on va pouvoir faire croire à qui que ce soit que François Hollande a l'intention d'améliorer leur vie? À personne on peut faire croire un truc pareil. Et alors je vous le dis, c'est plus Olivier Faure qui dirige le PS.
Les députés socialistes estiment de leur côté que le nouveau Front populaire n'est pas mort puisque les forces de gauche se retrouveront pour faire barrage au Rassemblement national. À droite, pendant ce temps, une guerre des chefs se dessine. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, jouit d'une très bonne cote de popularité, y compris au sein de son parti, les LR. Le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez, annonce lui qu'il prépare son plan de refonte pour le parti Maïlène Trémollet pour Europe 1.
C'est un match à mort. Retailleau est prévenu. Laurent joue sa survie et c'est un tueur, résume un élu. Chez les Républicains, on se prépare à une bataille féroce pour la présidence du parti qui installerait surtout le candidat de la droite pour 2027. Au lendemain d'un dîner glacial entre les deux hommes, Laurent Wauquiez défend avec vigueur une élection interne en mai. Et pour cause, s'il y a une campagne, Laurent a un avantage indéniable. Il n'est pas bloqué au gouvernement, explique un soutien du député de Haute-Loire. À l'inverse, Bruno Retailleau, sous le feu des projecteurs depuis son arrivée place Beauvau, veut surfer sur la vague et aller vite. Une stratégie partagée par une majorité des élus LR. On n'a plus de chef, il y a le feu à la maison. On ne peut plus attendre, alerte une sénatrice. Un participant à la réunion renchérit. Wauquiez ne fait rien, il endort tout le monde. Il faut bouger les lignes. Message reçu au sommet du parti. L'élection aura finalement lieu dès le mois prochain ou en avril au plus tard. D'après un sondage Opinionway pour Le Point, 37% des électeurs de droite souhaitent voir Bruno Retailleau prendre les rênes de LR. Plus du double de Laurent Wauquiez qui plafonne aujourd'hui à 15%.
Dans le reste de l'actualité en métropole, en bref, le Somalien qui a agressé trois fonctionnaires de police devant la préfecture de police de Paris a été placé dans une infirmerie psychiatrique. Il avait blessé les trois agents avec un bout de miroir avant d'être interpellé. Il avait déjà eu maille à partir avec la justice en 2023, arrêté à deux reprises pour avoir tenté de dérober une arme à un policier. Et puis après le drame qui a coûté la vie à une collégienne à Châteaudun la semaine dernière, une vaste campagne de dépistage a été menée sur les conducteurs de cars scolaires. Sur les 9000 contrôles effectués, 49 chauffeurs ont été dépistés positifs aux stupéfiants ou à la drogue. La procédure judiciaire à leur encontre devrait aboutir à une suspension de leur permis de conduire. À l'étranger, les déclarations de Donald Trump sur le dossier du Moyen-Orient continuent d'alimenter les commentaires et met les chancelleries en ébullition. Il veut faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient et déplacer pour cela les populations gazaouies vers d'autres pays arabes. Ce n'est pas une bonne idée, explique François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, mais cela a le mérite d'ouvrir le débat.
Il oblige tout le monde maintenant à regarder aussi la réalité de la situation. Sa solution n'est pas la bonne, déménager 1,8 million de Palestiniens dans deux pays, l'Égypte et la Jordanie, qui n'en veulent à aucun prix. La Jordanie, il y a déjà 50% de réfugiés palestiniens dans la population. Quant aux Égyptiens, ils n'ont jamais eu de tendresse particulière pour les Palestiniens. Donc la réponse n'est pas absolument évidente. Les deux tiers des immeubles à Gaza ont été détruits, les deux tiers. Mais en attendant, il n'y a pas d'autre réponse que celle de Trump.
Et notez que cette déclaration de Donald Trump a été adoucie en quelque sorte par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui a expliqué que le déplacement des habitants serait temporaire, le temps de la reconstruction de Gaza. 11h58, c'est la dernière pause de ce journal. On se retrouve pour parler sport et ensuite ce sera les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vous croyez que ce n'est que dans les contes de fées que les anciennes voitures se changent en Mini ? Vous avez tort. La preuve, jusqu'au 28 février, c'est les jours Very Mini chez Prestige Motors. Et pendant les jours Very Mini, pour l'achat de la Mini de vos rêves, Mini reprend votre ancien véhicule au prix Argus plus 400 000 francs. Une reprise au prix Argus plus 400 000 francs ? Non, non, ce n'est pas un conte de fées.
Alors, quelle Mini allez-vous choisir ? La Mini 3 portes ? La Mini 5 portes ? La Mini cabriolet ? Ou la Mini Countryman hybride rechargeable ?
Eh oui, c'est un grand jour pour s'offrir une Mini. Profitez-en dès aujourd'hui chez Prestige Motors au 6e kilomètres.
Offre valable jusqu'au 28 février 2025 dans la limite des stocks disponibles, voire conditions concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et d'abord du football avec la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France. Une énorme sensation en Bretagne, Léo.
Et oui, alors que Nice menait 1-0 sur la pelouse de Saint-Brieuc, club de National 2, à quelques minutes de la fin du match, les Aiglons se sont fait surprendre par Hugo Boudin, auteur d'un doublé à la 88e, puis dans les arrêts de jeu à la 97e minute. Le défenseur bourreau de Nice est devenu le sauveur de tout un club. Saint-Brieuc verra donc les quarts de finale de la Coupe de France après sa victoire 2-1 donc sur l'OGC Nice. Ce n'est pas la seule sensation de la matinée puisque Guingamp, pensionnaire de Ligue 2, est allé s'imposer au Stadium de Toulouse, victoire 2-0. Les autres résultats, Angers a dominé Strasbourg 3-1 et Cannes, qui évolue en National 2, a battu Dives Cabourg, club de National 3, sur le score de 5-3. Pour rappel, hier, le PSG, Dunkerque et Brest se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le tirage au sort aura lieu demain matin pour nous aux alentours de 6h, juste avant le dernier huitième de finale entre Bourgoin-Jallieu et Reims.
Et puis on termine avec du tennis pour prendre des nouvelles de Maxime Chazal. Le Calédonien, après sa tournée sud-américaine, est en Espagne.
Le 335e à l'ATP dispute le tournoi ITF M15 de Valence. Hier soir, au premier tour en 16e de finale, il a battu le jeune bulgare Anas Majdraski en 3-7. 4-6, 7-6, 6-1. Il disputera donc un huitième de finale ce soir contre le Britannique Jeremy Gwentner, 1141e joueur mondial. Depuis le début de l'année, Maxime Chazal compte 7 victoires pour 3 défaites sur le circuit professionnel.